Conférence privée, 24 novembre 1982, Père Philippe Rimond.
Je vous donne rarement des images, mais ici on en a donné. C'est du pèlerinage de... Je vous ai donné la croix l'autre jour, hein, en revenant de Palestine. Et puis ici, c'est quelqu'un qui a voulu tirer pour les frères. Vous savez, ceux qui ont été là-bas voient ce qui a pu être, parce que au point de vue historique, hein, vous savez qu'on sait très peu de choses au point de vue historique. Les historiens sont terribles dans leur précision. Je dis pas ça pour les historiens d'ici, mais les historiens sont terribles pour savoir exactement ce qu'on peut dire. Marthe, la petite Marthe Robin, avait eu cette vision qu'elle avait dit au Père Finet. Quand le Père Finet est allé faire son pèlerinage en Palestine, il a dit « Père, surtout, surtout, allez en Saint-Pierre Gallican et voyez la prison du Christ. » Et dans la prison du Christ, regardez attentivement sur le mur l'ombre. Cette ombre assez extraordinaire, du reste, ceux qui ont été là. Et c'est vrai qu'il y a une prison qui reste, une prison intacte du temps du Christ. On en est sûr, c'est du temps du Christ. Et on pense que c'est là. Mais encore une fois, au point de vue historique, les opinions sont diverses. Hein. Alors, je n'avance pas plus. Où Jésus aurait passé la nuit du jeudi au vendredi, n'est-ce pas ? Arrêté le jeudi soir, on ne va pas déranger Pilate la nuit, vous comprenez, hein ? On ne dérange pas un Romain la nuit, c'est évident. Et donc, Jésus a été conduit auprès des grands prêtres. Et sans doute qu'il a passé la nuit là. Et qu'il y ait ça. Alors, il y a cette petite... Vous pourrez regarder ça. C'est beau dans le sens que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Surtout avec ce témoignage de Marthe. Moi, je dirais que pour moi, c'est... plus qu'un argument historique, c'est un argument du cœur. Alors, je n'avais pas demandé, puis ça s'est fait spontanément. Alors, vous pourrez faire passer ça, ceux qui en désirent, puisqu'il y en a, je crois, assez pour tout le monde. Oui, prenez. Vous verrez. Simple et beau. Deuxièmement, est-ce qu'une communauté comme vous est capable de garder un secret un jour ? Que ceux qui sont incapables de garder un secret un jour lèvent la main, et alors à ce moment-là, je ne dirai rien. C'est pas commun de garder un secret un jour, mais il faut le garder un jour. Vous pourrez, et puis de toute façon, du reste, vous le garderez dans votre cœur. On a demandé, je dis ça, c'est parce que demain soir, j'irai prendre mon repas avec nos sœurs, et je leur parlerai. Je ne pouvais pas le faire ce soir. Et puis, je vous en parle en premier lieu, puisque on est liés en premier lieu. Donc, c'est par rapport aux sœurs. On a demandé à Monseigneur s'il acceptait, s'il était d'accord qu'on puisse, parce que jusqu'ici, n'est-ce pas, on n'avait rien dit à Monseigneur. J'ai toujours dit à celles qui désiraient être sœurs de Saint-Jean que tant qu'on était à Fribourg, rien ne pouvait se faire. Parce qu'il faut normalement le consentement de l'évêque. En vue d'une pia unio, en vue de cela. Donc, tant qu'on est à Fribourg, on ne pouvait rien faire. Et en arrivant ici, en venant ici, bon, il fallait le demander à Monseigneur le Bourgeois, de sorte que, comme il est venu aujourd'hui, vous l'avez vu, il a voulu venir lui-même. Parce que d'abord, il avait demandé au Père, à notre prieur, le Père Philippe-Marie, d'aller là-bas. Et puis, il a voulu venir lui-même ici, ce qui est très bien, parce que c'est quand même un petit geste d'amitié qu'il veut nous témoigner de cette manière-là. Alors, on lui a posé la question, et Monseigneur a dit que pour une pia unio, normalement, la demande officielle se fait quand on a une vingtaine de membres. Avant, ça se fait d'une façon souterraine, cachée. Alors, pour nos sœurs, je crois que ça peut commencer à quelque chose qui doit se réaliser avant tout dans la prière. dans la prière, dans la formation spirituelle et la prière. C'est ça avant tout qui doit se faire. Ce n'est pas une chose officielle, je vous ai déjà dit. Nous devons, avec elle, avoir avant tout des liens spirituels très profonds. Il faut prier pour elle. Elle prie pour vous. Et alors, c'était toujours le problème d'avoir un peu une sœur aînée. Ce n'était pas commode. Alors, tout compte fait, on a peut-être le terrain. Je sais que Alix Parmentier n'avait pas du tout envie de venir, mais d'autre part, je crois qu'elle a quand même une certaine formation, puisqu'elle a fait, elle a été au Carmel, et qu'elle aime beaucoup le Carmel, et que nous sommes liés au Carmel, de sorte que je crois que ça se fera. Je dis je crois que ça se fera, parce que toujours dans l'ordre de l'exécution, vous comprenez, les difficultés. C'est pour ça que je vous demande de garder un silence dans votre cœur. Mais je crois qu'il y aura comme ça une possibilité pour nos sœurs de pouvoir se structurer davantage autour de quelqu'un qui est une sœur aînée. Alix est très liée à la communauté, vous le savez bien, et qu'elle prie beaucoup pour la communauté, même avant que la communauté existe, je crois qu'elle priait beaucoup pour qu'il y ait quelque chose qui se fasse. De sorte qu'il faut, je crois, prier pour que ça puisse se réaliser selon le bon plaisir de la Très Sainte Vierge. Venez, alors, je vous dis ça pour que vous compreniez qu'on pense à nos sœurs, et pas croire du tout qu'on n'y pense pas. Qu'on y pense profondément pour qu'elles puissent pouvoir réaliser ce que la Très Sainte Vierge réclame d'elle. Parce que c'est ça qu'il faut, je crois, demander. Que ce que la Très Sainte Vierge réclame d'elle puisse se réaliser pleinement et totalement. Alors, il y a des chances que Alix Parmentier puisse venir être un peu la sœur aînée. Un peu pour les aider et les former petit à petit. Alors, je mets ça dans votre cœur. Alors, n'en parlez pas aux sœurs parce que je ne leur ai pas encore dit. Vous voyez, c'est très mal que je vous le dise avant, mais quand même, une fois, pour avoir une priorité, n'est-ce pas? Alors, je vous demande de garder ça comme un secret, ça vous ferait prier ça. Du reste, je vous ai demandé de ne pas parler inutilement à nos sœurs, il n'y a pas de raison. Vous voyez, demain, si tôt leur raison, vous allez vous précipiter à la fin, vous savez ce qui arrive. Alors, je vous demande d'offrir, ça on verra bien si vous gardez un silence vraiment surnaturel et divin, et chaque fois que vous aurez envie de parler, vous prierez pour elle. De temps en temps, je vous donnerai des secrets comme ça à porter, ça vous fera prier davantage. Puisque les secrets sont des zones de silence qui se creusent en nous. Alors ça doit être des zones de silence qui se creusent en nous. Alors ne dites même pas « Ah, il y a un grand secret !» C'est une manière très élégante de ne rien dire et de tout dire, n'est-ce pas ? Alors, d'autre part, nous allons bientôt entrer dans le temps de l'Avent. Je suis un peu désolé de ne pas être là avec vous pendant le temps de l'Avent au début. J'ai promis d'aller prêcher à Avignon. C'est vieux, hein, parce que c'est pas la première fois. On m'a déjà demandé plusieurs fois. J'avais dit tant que j'étais à Fribourg, impossible. Et puis alors ici, on m'a sauté dessus. Vous n'êtes plus à Fribourg, maintenant vous pouvez. Alors il faudrait dire tant que je suis à Rimont, je ne peux pas. Mais je crois que c'est quand même bien d'y aller, donc sorte que j'irai prêcher la retraite là-bas. C'est une retraite paroissiale, c'est une retraite donc de préparation à l'Immaculée Conception. Alors, j'essaierai de tout faire, je crois, pour être quand même avec vous. On verra comment on peut le faire, même si c'est un peu nocturne, tant pis, ce soir-là, on ne vous fera pas trop veiller la veille, mais on fera plutôt l'inverse. Que le jeudi, le jour de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, puisque c'est une fête pour nous, vous savez, très intime. La communauté a commencé d'une manière souterraine dans le mystère de l'Immaculée Conception, à Notre-Dame de Lérins. Vous demanderez des détails aux anciens qui portent une tradition dans leur cœur, n'est-ce pas? Alors vous leur demanderez comment ça s'est fait. Parce que ça s'est fait autour et à la fin d'une retraite prêchée à Notre-Dame de Lérins. Et c'est là où, sans savoir encore qu'il serait lié à Lérins, on a quand même promis à la Vierge Marie de lui être fidèle et d'aller jusqu'au bout des exigences de son cœur. De sorte que c'est quand même toujours dans le cœur de l'Immaculée Conception, dans le cœur douloureux et immaculé de Marie, que nous nous retrouvons, et qui est l'unité de la communauté. L'unité de la communauté, elle est là. Elle n'est pas autre part que dans le cœur douloureux et immaculé de Marie. Les deux grands aspects, la douleur du cœur de Marie et le mystère de l'Immaculée Conception. Parce que nous devons tous, en elle, être immaculés, vous comprenez bien, n'est-ce pas ? Nous aspirons à ça, nous ne serons pleinement qu'on sera dans le ciel. Mais la 13e Vierge peut faire des privilèges, elle nous laisse avec nos fatigues, nos misères, même nos chutes, mais elle peut faire que, de fait, il y ait dans le fond de notre cœur quelque chose qui reste très pur, d'une limpidité absolue, qui est la limpidité de son cœur. Et je crois que Marie aime que ses enfants, que ses fils bien-aimés, et on peut se considérer comme ses fils bien-aimés, ne le dites pas trop à l'extérieur, mais ad intra on peut le dire. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut dire qu'à l'intérieur. Il ne faut pas trop les répéter à l'extérieur, ce qu'on dit à l'intérieur. Ça fait partie de ses secrets de famille. Hein. Alors les secrets de famille, on doit les garder. Et on doit les garder jalousement. Je crois qu'il faut qu'on demande à la Très Sainte Vierge cette grâce, de vivre de plus en plus de son cœur immaculé. Ça fait partie, vous voyez, de l'exigence de la communauté Saint-Jean. C'est pour ça qu'on doit avoir un tel amour de la vérité, un tel amour de la purification de notre intelligence, pour que notre cœur, de plus en plus, soit d'une limpidité absolue. Ce n'est pas nous qui pouvons faire cette purification, c'est Marie qui peut la faire en nous. Et Marie peut réaliser en nous cette pureté, et il faut que nous lui demandions. Il faut que l'on demande à la Très Sainte Vierge de réaliser de plus en plus en nous cette pureté toujours plus grande. Et c'est comme ça que c'est bon durant l'Avent. L'Avent, vous le savez bien, doit être pour nous. Quand on est au noviciat, l'Avent c'est un temps magnifique. Parce que c'est le temps du noviciat, l'Avent. On attend. Je sais bien qu'on attend toute sa vie. Tant qu'on est sur la terre, mais parce que toute la terre c'est un noviciat, on attend d'entrer dans le ciel, c'est bien évident, on attend d'entrer dans le ciel, on attend que le Christ revienne. Et le temps de l'Avent doit nous faire comprendre en profondeur ce que doit être notre noviciat. Et nous devons avoir une attitude semblable à celle de Marie pendant le temps de l'Avent. Une attitude semblable à celle de Marie. Et il faut, je crois, pendant ce temps de l'Avent, essayer de vivre toutes les grandes dimensions du temps de l'Avent. C'est quelque chose de très très grand. C'est donc une grâce de renouveau. Et c'est important, cette grâce de renouveau. Il faut la demander à l'Esprit Saint. Parce qu'on vieillit très vite, vous savez, c'est ça qui est terrible. On vieillit très vite, parce que dès qu'on on a 8 jours, calme, maintenant je sais, il y a un mois que je suis là, donc ça y est, je connais. Il y a un an que je suis là, maintenant je connais. Alors on a la mentalité des petits vieux. Et alors, la mentalité des petits vieux, c'est effrayant, non ? Parce qu'il n'y a plus l'élan et la spontanéité du cœur. Il n'y a plus ce don absolument généreux. C'est ça que nous donne l'Avent. C'est de comprendre qu'il faut de nouveau nous redonner totalement. C'est très important, ce don actuel de Marie, pour s'entraîner mutuellement. Les plus âgés entraînent les plus jeunes, et les plus jeunes entraînent les plus âgés. Normalement, les plus jeunes doivent courir plus vite. Normalement, si. Vous savez bien ce que dit Saint Jean Climiac, la ferveur d'un novice est normale. Un novice qui n'est pas fervent n'est pas un novice. Alors la ferveur du cœur de Marie, dans notre cœur, pas une ferveur sensible, parce que la ferveur sensible, ça, c'est pas ça qui compte, mais la ferveur profonde, cette volonté de tout donner, pour aller plus vite, pour avancer plus vite. Cette volonté de tout donner, c'est ça qui nous fait novice du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il sait très bien, lui ne se trompe pas. Il n'y a pas de danger. Il voit tout de suite si tout est donné. Alors il faut qu'il y ait cette volonté de tout donner. C'est la seule manière, du reste, de pouvoir faire que les difficultés inhérentes à notre sanctification, inhérentes au poids de la communauté, quand on est nombreux, tout ça soit absorbé. Mais pour qu'une communauté soit légère, il faut que chaque membre de la communauté soit léger. Et chaque membre de la communauté est léger dans la mesure où il se donne totalement. Alors il y a une espèce de légèreté profonde qui doit se réaliser de plus en plus. Et ça, je crois que le temps de l'Avent doit faire ça, doit réaliser cela. Puis vous savez bien, au terme de cet Avent, il y a le mystère de Noël, et puis peu de temps après, il y a la fête de Saint-Jean. Et la fête de Saint-Jean prendra cette année-ci, ici, une couleur particulière. Nous prierons pour tous ceux qui s'engageront vraiment d'une manière perpétuelle, c'est-à-dire éternelle, et qui se donneront totalement, et qui seront bientôt, alors après, diacres, et peu de temps après, prêtres, puisque c'est cet engagement qui fait que, à partir de là, le Christ peut les appeler au sacerdoce. Pas nécessairement. Je dis toujours ça parce que c'est très important. Pas nécessairement, c'est pas parce qu'on a tout donné au Seigneur que nécessairement on doit devenir prêtre. Pas nécessairement. Mais normalement, le Seigneur fait cette exigence-là, étant donné que l'Église d'aujourd'hui a besoin de prêtres, et que c'est normal que le Christ les appelle. Mais il faut bien comprendre, et je crois que ça fait partie de la spiritualité, justement, de ces novices du Saint-Esprit. Quand Jésus a choisi ses apôtres, il leur a demandé « Suis-moi ». Il leur a pas dit « Veux-tu être prêtre ?» Non, « Suis-moi ». Et quand on frappe à la porte de Saint-Jean, de la communauté Saint-Jean, la seule condition qu'on demande, c'est de pouvoir suivre l'agneau. Est-ce que vous voulez suivre l'agneau jusqu'au bout? Si vous voulez suivre l'agneau jusqu'au bout, même si vous avez de gros défauts, on en a tous. Il y en a plus ou moins gros, c'est évident, ça dépend du poids, ça. Mais on en a tous des gros défauts. Dans la communauté des gens, c'est pas les vertus qui dominent. Hein. On le sait bien, on a tous des gros défauts, c'est sûr. Mais c'est pas ça. Il faut avoir un peu de vertu pour se supporter. Mais c'est évident, il faut un peu de vertu pour se supporter, parce que... Il faut quand même un peu de vertu, bon, c'est un peu d'huile qui descend de la barbe d'Aaron, et qui coule. Alors c'est ça la vertu, c'est cette huile qui permet d'avoir un peu de douceur quand même, et que ça permet que ce ne soit pas trop trop dur de se supporter. On s'allège mutuellement, on se supporte mutuellement. C'est pas tellement les vertus, c'est pas tellement les qualités, vous savez bien. L'année dernière est entré quelqu'un qui avait des diplômes extraordinaires et qui a demandé « Est-ce que la communauté de Saint-Jean est une communauté d'intellectuels ? Est-ce qu'on tient compte de toutes les qualités intellectuelles qu'on a pour permettre d'aller jusqu'au bout de ces qualités intellectuelles ?» J'ai dit « Mon cher ami, si c'est ça, vous vous trompez de route. » Non, non, la communauté de Saint-Jean, c'est pas ça. Alors, il est parti autre part, j'ai pas une nouvelle, je sais pas dans quelle communauté intellectuelle il est entré, je sais pas, une suite. Mais tu aurais dit qu'il n'est pas resté. C'est le second. Des types très brillants, merveilleusement brillants, qui ont des qualités extraordinaires. Si on avait voulu les pousser et avoir des vedettes, vous voyez, ce serait eux qu'on devrait prendre. Alors on aurait des vedettes, on ferait des vedettes. Parce que ce sont des jets extrêmement... Tous les deux étaient très brillants. Ils avaient des qualités vraiment très au-dessus de la moyenne. Vous voyez, ça touchait. La grande élite intellectuelle. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que demande la Sainte Vierge. La Sainte Vierge nous demande que notre cœur soit donné. Et que notre intelligence s'éveille dans notre cœur. Et que nous soyons intelligents pour Dieu. Que nous soyons intelligents pour Dieu, que nous soyons intelligents pour nos frères. Alors oui, ça c'est très vrai. La communauté des gens désire qu'on cherche la vérité. quelqu'un qui ne voudrait pas chercher du tout la vérité, qui dira ah non, moi j'ai un mépris souverain pour... Ah non plus. Vous voyez, c'est deux extrêmes. Hein. Il faut être évangélique. Et être évangélique, c'est suivre l'agneau partout où il va. C'est l'aimer. Et nous donnons notre intelligence à Dieu. C'est vrai. Si Dieu nous demande de faire la métaphysique, c'est pour pouvoir parler du mystère de Marie. C'est curieux, ça. Mais ça, j'ai compris très vite. Et c'est pour ça que le Père Deau m'a dit « Va, continue de faire la métaphysique. Hein. » Et la métaphysique, il faut en faire tout le temps. Hein. Pour pouvoir parler du mystère de Marie. La métaphysique nous permet de parler du mystère de Marie. C'est très curieux, ça vous semble très curieux, hein, à première vue. Hein. L'être, hein, oui. Mais c'est pourtant bien vrai. La métaphysique nous permet de parler du mystère de Marie. Parce que Marie, c'est le cristal d'une telle limpidité, puisqu'elle est immaculée. Il faut donc une intelligence qui soit de plus en plus pénétrante pour pouvoir parler du mystère de Marie. Et je dis bien le mystère de Marie, encore plus que de la Très Sainte Trinité, vous voyez, c'est très curieux. Le mystère de la Très Sainte Trinité, oui, il faut une limpidité très grande de l'intelligence pour pouvoir parler du mystère de la Très Sainte Trinité. Mais Marie, c'est le complément de la Très Sainte Trinité. Alors, comme est le complément de la Très Sainte Trinité, il faut cette limpidité très très profonde de l'intelligence. Et nous poussons notre intelligence le plus que nous pouvons, mais très simplement, sans du tout vouloir devenir quelqu'un qui perce, c'est pas ça qu'on veut. Le don actuel au Christ, au sens le plus fort, le don actuel à Marie, parce que Jésus nous a donné sa mère. Et nous voulons vivre dans ce don. Vous voyez, je dis ça, c'est parce que l'Avent nous donne une grâce de renouveau. Et il faut qu'il y ait cette grâce de renouveau. Il n'y a pas longtemps qu'on est ici, hein, c'est très vrai, il n'y a pas longtemps. Mais il faut que tous se redonnent d'une manière encore plus forte pendant l'Avent. Je ne vous demande pas des choses héroïques, hein, au point de vue de la santé, au point de vue de la nourriture. Hein. Non, c'est pas ça qu'il faut, c'est pas de ce côté-là. Qu'on n'hésite pas si on peut faire des petites privations, pas tellement pendant l'Avent, pendant le carême, attendez le temps de carême. Un temps de carême, oui, alors vous pourrez vous serrer la ceinture et prendre des repas avec les anges. Alors ça, c'est très très bien. Le repas avec les anges, c'est très très bien quand on peut le faire. Ça aide tout le monde. Ça permet que ça aille plus vite. C'est l'inconvénient, c'est pas tout le monde en même temps. Mais très bien. Il y en a qui prennent des repas angéliques, je vois le soir, une rapidité extraordinaire. Alors, j'ai un tout petit peu peur, je regarde, je dis attention, mangez quand même quelque chose, mais s'ils peuvent le faire, qu'ils soient prudents. Il faut être un peu prudent, il ne faut pas vouloir aller trop vite. Ce qu'il faut, c'est la pureté de l'intelligence et du cœur, c'est le don total de l'intelligence et du cœur. C'est ça que Marie réclame pendant le temps de l'Avent. Et une charité fraternelle, encore plus profonde. Vous vous aimez les uns les autres, mais allez plus loin, encore. Vous pouvez encore vous aimer plus. Vous choisir, comme Marie vous choisit, comme Jésus vous choisit. Vous choisir vraiment, en vous aimant. Et si Dieu met des liens très intimes entre vous, très bien, que tout ça soit assumé, pour rester ouvert, sans aucun exclusivisme, mais que ce soit porté dans un grand amour. Ça, la Très Sainte Vierge est très sensible à ça. Vous savez, une mère est très sensible à l'affection que les enfants ont entre eux. Et dans une grande famille, c'est très important qu'il y ait une très grande affection, un très grand amour. Ça se traduit, vous voyez, par des petites choses de rien du tout. Ça se traduit par, je sais pas quoi... C'est le petit sourire qu'on fait parce qu'on est en face de quelqu'un qu'on sait qui souffre. On devine ça, on devine, on comprend qu'il y a des moments difficiles, des moments plus difficiles. On s'aide, on se porte, on prie les uns pour les autres.
tout ce temps de l'Avent est commandé par le grand mystère de l'Annonciation. Et c'est là où j'aime d'y revenir, parce que c'est le grand mystère de notre soif de contemplation. L'Annonciation, je vous l'ai déjà dit, et j'y reviens, parce que c'est cela que la Très Sainte Vierge réclame de nous, avoir une intention de contemplation. On ne peut pas dire qu'on est contemplatif, hein. On ne demande pas comme condition pour entrer à Saint-Jean d'être un contemplatif. Si vous entrez en disant, vous savez, vous pouvez compter sur moi, moi je suis un contemplatif. Vous pouvez compter sur moi, je suis déjà arrivé à la 8e demeure. Je le sais bien, je connaissais quelqu'un qui était comme ça. Je suis déjà arrivé à la 8e demeure. Il n'est pas encore, il n'avait pas demandé d'entrer à Saint-Jean. Saint-Jean n'était pas encore, n'existait pas encore. Mais je suis sûr que si Saint-Jean avait existé, il serait venu frapper à la porte pour demander d'entrer à Saint-Jean. Il suffisait qu'il se mette dans son fauteuil pour que tout de suite, il soit transporté à la 8e demeure. Et le fauteuil avec, n'est-ce pas? Alors, c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Parce qu'il prétendait ça. Il prétendait qu'il y avait, et il y avait des choses curieuses, du reste, très curieuses. Très bien. Je veux bien, je n'en sais rien. Normalement, le Saint-Esprit fait de nous des contemplatifs par le désir. C'est ce que saint Thomas nous dit. Et saint Thomas sait ce que c'est que la contemplation. Il nous dit que nous menons une vie contemplative par le désir de la contemplation. C'est ce que regarde avant tout Jésus et l'Esprit Saint et Marie. C'est notre désir de contemplation, c'est notre soif de contemplation. Cette soif de contemplation, ce désir, nous l'exprimons spécialement au moment de l'oraison. Demandons à l'Esprit Saint de nous donner ces grâces d'oraison. Des grâces intérieures, pas des grâces extraordinaires. Hein. Pas des grâces extraordinaires, des grâces intérieures de l'oraison. C'est-à-dire de permettre que les dons d'intelligence et de sagesse s'exercent de plus en plus et que nous entrions dans ce mystère d'intimité avec le cœur de Jésus, ce commerce intime avec le cœur de Jésus. Il faut demander ces grâces d'oraison, il faut demander cette intimité avec le cœur de Jésus, il faut demander cette intimité avec le cœur de Marie. Il faut demander cette intimité avec le Père. Il faut que nous puissions considérer que le mystère de l'oraison réalise l'alliance d'amitié de l'époux et de l'épouse. Jésus est notre bien-aimé. Et c'est très important de demander à l'Esprit Saint nous apprendre à le dire. Que l'Esprit Saint nous apprenne ce lien si fort qui doit exister entre notre cœur et le cœur de Jésus. Ce lien de bien-aimé. Vous voyez, c'est l'alliance du Père avec le Fils. Il est mon Fils bien-aimé. Et c'est vrai, je crois que c'est ça le mystère de la prédestination. On est prédestiné à être des bien-aimés. C'est peut-être ça notre nom caché. On est agapétos, hein, on est des bien-aimés. Des bien-aimés pour le Père. On est des bien-aimés pour Jésus. Et Jésus est notre bien-aimé. C'est réciproque, ça. C'est réciproque. Et ça doit être réciproque. Et ça doit être vécu de l'intérieur. C'est ça qu'établit le mystère de l'Annonciation. Le mystère d'Annonciation fait comprendre à Marie que le Père l'aime d'un amour unique. D'un amour qui n'a encore jamais été exprimé. C'est la salutation. Marie est saluée par le Père de cette manière. Elle est saluée comme celle qui est aimée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, pleine d'amabilité. Elle est aimée de cette alliance nouvelle et donc elle est la bien-aimée du Père. Et c'est pour ça que saint Thomas dit qu'avec l'Annonciation, il y a cette alliance de l'époux et de l'épouse. Le Père épouse Marie à l'Annonciation. Je crois que c'est cela le mystère de la contemplation. C'est vraiment de savoir, dans la foi, de l'espérance et dans l'amour, de vivre cette alliance de bien-aimés. Le Père nous aime et nous choisit à travers son Fils. Et le Fils, c'est nous, puisque nous sommes le Fils bien-aimé à travers Jésus et en Jésus. Ce que Marie a réalisé dans ce mystère de l'Annonciation, Marie désire que nous puissions le réaliser, nous aussi. Mon Père, ma Mère, ma Sœur, mon Frère, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Celui qui vit de ce mystère de la parole de Dieu. Celui qui vit de cette amitié avec le Père. Et qui entre dans cette amitié profonde. Il faut que nous en ayons soif et que nous le demandions en sachant que ce n'est pas une chose extraordinaire, que c'est normal. Si l'Esprit Saint, si Marie nous ont choisis et nous font entrer dans la communauté Saint-Jean, c'est parce que nous voulons cela et que nous voulons nous engager totalement à cela. Ça en vaut la peine. Suivre l'agneau partout où il va, c'est vraiment saisir son cœur et demeurer au plus intime de son cœur, en sachant que lui doit demeurer au plus intime de notre cœur. En entrant dans la communauté Saint-Jean, nous demandons de pouvoir vivre de cette contemplation, d'en avoir le désir. On dit qu'on en a le désir et que c'est ça la chose principale pour nous. Tout dépend de cette intention de vie. C'est une intention de vie. Alors cette intention de vie, c'est très exigeant, c'est bien évident que c'est très exigeant. Parce que quand Jésus nous prend, et il nous prend toujours au mot, hein, dans cet ordre-là, tout le temps, alors c'est très exigeant, ça réclamera tout, c'est bien évident. L'alliance de l'époux et de l'épouse, l'alliance avec le bien-aimé, ça veut dire que ça prend tout. Dieu est un Dieu jaloux. Jésus est un Dieu jaloux. Jaloux dans l'ordre de l'amour. Mais cette jalousie n'exclut rien, mais elle purifie tout. Elle purifie tout de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'elle prend notre cœur et elle rend notre cœur encore plus vulnérable qu'avant, mais en même temps infiniment plus fort. Plus vulnérable et plus capable d'aimer. Et en même temps, de plus en plus limpide. C'est ça qui est merveilleux. Parce que Dieu nous donne toujours le centuple. Nous offrons à Dieu ce qui nous est le plus cher, c'est bien évident, nous lui offrons en nous donnant. Et Dieu nous donne tout de suite le centuple. Il nous fait comprendre qu'il est là et qu'il est le Dieu de l'amour. Jésus agrandit notre cœur à la dimension du sien. C'est ça la contemplation. C'est agrandir notre cœur à la dimension du sien. Marie, à l'Annonciation, a dit son fiat sous la mouvance du don de sagesse. Et sous la mouvance du don de sagesse, elle a reçu le secret. Et c'est pour ça que Marie, en recevant le secret, doit répondre seule au messager, à l'ange. Marie ne va pas demander conseil à Joseph. C'est très important de comprendre ça. Il faut comprendre que toute la nouvelle alliance est réalisée entre le cœur de Marie et le Père. C'est entre le cœur de Marie et le Père. Il y a eu un intermédiaire. Mais cet intermédiaire, l'ange, est un intermédiaire, un instrument contemplatif qui est là pour laisser plus de liberté à Marie, pour que Marie puisse dire un oui plus libre. Et c'est ce que Dieu continue. Hein. Il met auprès de vous des instruments pour que vous puissiez avoir plus de liberté. il vous a frappé au plus intime de votre cœur, d'une manière ou d'une autre, mais il a touché intimement votre cœur, et puis ensuite, il vous conduit auprès de ses instruments. Et il aime que ce soit à travers ses instruments, pour qu'il n'y ait plus de liberté. C'est plus facile, hein, de dire non à un instrument de Dieu qu'à Dieu. C'est très vrai. Et Dieu veut justement qu'il y ait un oui plus absolu. C'est pour ça qu'il passe par des instruments, pour faire surabonder la miséricorde. Et il a commencé, voyez bien, regardez la première annonciation faite à Abraham. C'est Dieu qui s'est dérangé directement pour Abraham. Et quand il s'agit de Marie, il envoie Gabriel. Avec tout le respect qu'on doit avoir pour Saint Gabriel. Il n'envoie que Gabriel, c'est évident. Et c'est... Tandis qu'avec Abraham, c'est les trois. C'est impressionnant. Ça. Et quand il s'agit de Marie, l'ange Gabriel, pourquoi? Pour laisser Marie plus libre. Pour laisser Marie plus libre, pour que, de fait, l'alliance repose sur cette liberté. Vous voyez, c'est très beau, ça. Dieu fait qu'il y a beaucoup qui entrent dans la communauté Saint-Jean pour que vous soyez plus libres. Et que ceux qui vous reçoivent soient plus libres. Vous savez, quand il n'y en a qu'un, hein, on le garde jalousement comme l'unique, hein. On dit, surtout ne pars pas, parce qu'il n'y a plus personne. Alors, tandis qu'on peut dire, mais non, vous pouvez partir, vous êtes libre, vous savez, il y en aura, restera toujours assez. Bon. Alors, vous êtes libre, vous êtes d'une liberté totale. Et c'est vrai, il faut vous sentir d'une liberté totale, vous vous engagez librement, comme Marie. Il n'y a pas eu d'actes beaucoup d'actes aussi libres que l'engagement de Marie, parce qu'elle a beaucoup aimé. Plus on aime, plus on est libre. Et un contemplatif s'engage toujours librement. Dieu a voulu que Marie s'engage seule, sans demander conseil à Joseph. C'est aussi très beau, ça. Pour faire comprendre que, de fait, cet engagement que nous faisons est un engagement qui prend ce qu'il y a de plus intime dans notre vie. On est seul avec Dieu. L'engagement que nous faisons, voyez, touche à notre prédestination. C'est vrai, un engagement contemplatif touche toujours à notre prédestination. Nous nous lions profondément au regard du Père sur nous. Et nous disons que, oui à son regard sur nous, à ce regard du Père sur nous en tant qu'il nous regarde comme des enfants bien-aimés. Nous sommes prédestinés à des enfants bien-aimés. La prédestination est un mystère de contemplation. C'est un mystère de contemplation. C'est à l'intérieur de la contemplation de Dieu, que le Père nous attire et qu'il veut que nous répondions dans cette même contemplation. C'est dans la contemplation que se noue ce mystère d'intimité, de prédestination. Et quand nous répondons donc à Dieu, oui, et nous devons le faire pendant le temps de l'Avent, dès ce soir, c'est bien évident, mais nous anticipons l'Avent. Mais c'est pendant l'Avent, nous le dirons tous les matins. Parce que nous vivrons ce mystère d'Annonciation avec Marie de façon très particulière. Et nous devons vivre toujours ce mystère d'Annonciation. C'est à Marie que Dieu demande le oui. Et Marie est seule. Comme un petit enfant bien-aimé, Marie n'a pas peur de prendre une décision seule. En face de Dieu, on n'a jamais peur de prendre une décision seule. C'est quand il s'agit de prendre une décision à l'égard des hommes qu'on est obligé de demander conseil, mais à l'égard de Dieu, c'est très direct. Eh bien, c'est cette petite, ce qui était une petite stigmatisée de Flamande, d'Anvers, n'est-ce pas, et qui était aimée de Dieu, la petite Clark, et qui m'a raconté cette chose merveilleuse. Elle est morte maintenant, mais on va introduire sa cause. Alors un beau jour, elle avait je crois 22 ans, elle enseignait, elle entre dans l'église, puis elle entend une voix d'homme, comme elle disait, qui disait « Clark, suis-moi !» Alors elle a une frousse intense, Il est couru auprès de son père. Il dit, j'ai entendu une voix d'homme dans l'église. Je suis retourné, il n'y avait personne. Et il m'a dit, Clark, suis-moi. Alors le père a dit, alors qu'est-ce que tu as dit? Mais j'ai eu peur. Et la fois prochaine, tu diras oui. Ah, ouais, le père, il était un bon directeur de conscience. Hein. La fois prochaine, tu diras oui. Alors en effet, 8 jours après, la même voix. Clark, suis-moi. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, elle voyait la croix. Hein. C'était pas drôle. Elle a dit, oh, quelques jours de réflexion, 8 jours de réflexion. Pour dire oui, on comprend. Hein. On vous donne 2 mois de réflexion. Clark, suis-moi. Alors, au bout de... Dès qu'elle avait quitté, elle a dit, oh, comme je suis, je manque de générosité, j'ai eu peur. Alors au bout de 2 jours, elle a dit oui. Et puis le Seigneur a répondu, jusqu'à la croix. Et elle est venue stigmatiser. Je l'ai vue quand je l'ai vue elle était toujours couchée, elle passait des nuits en prière. De façon étonnante, c'était merveilleux. Avec une simplicité, un réalisme merveilleux. Elle passait ses nuits en prière. Elle portait, et elle me disait que tout ce qu'elle demandait à Pidis n'était pas encore canonisé. Pidis lui accordait. Alors je dis, ah bon alors, hein, je portais dans mon cœur une souffrance énorme d'une petite cousine à la mode de Bretagne qui était toute frêle, toute petite. Je l'ai mise dans le cœur de Clark Marc. Oui. Mais elle guérira. Faut la prier de temps en temps. Hein. C'est bien. C'est le lien avec la Flandre. Hein. C'est quelque chose. C'est quelque chose de profond en vers. Hein. Elle est sûrement près du Seigneur. Et alors elle nous fait comprendre comment nous devons répondre. Nous devons répondre en donnant tout. On demande conseil au Saint-Esprit. Et c'est vrai, on demande conseil au Saint-Esprit. De temps en temps, il faut faire de ces folies, vous savez. Avec le Saint-Esprit, on peut les faire. Alors on dit oui au Saint-Esprit, pleinement et totalement, comme Marie. Comme Marie. Marie n'a demandé conseil à personne. Enfin, voyez bien, hein, c'est sûr, c'est pas du tout pour exclure, demander conseil à tous les instruments de Dieu que nous pouvons, c'est pas ça du tout. Hein. Les instruments de Dieu ne font pas nombre en tant qu'ils sont instruments de Dieu. Mais nous allons le plus loin possible dans cette réponse. Suivre l'agneau partout où il va. C'est ça le contemplatif. Suivre l'agneau partout où il va. Aller jusqu'au bout. Et nous portons un secret et nous gardons ce secret. Et nous allons jusqu'au bout de ce secret. Parce que nous savons que le Verbe de Dieu nous est donné dans ce mystère de l'incarnation. Il nous est donné comme il a été donné à Marie. Comme il a été donné à Marie. Il a été donné à Marie pour que nous comprenions jusqu'où il nous est donné et comment nous devons vivre de lui. Et notre contemplation, c'est recevoir celui qui nous est donné. C'est vivre de lui. Et d'avoir soif de vivre de lui. Nous savons très bien que nous vivons mal, mais avec Marie, nous pouvons le vivre. L'exigence de la vie contemplative, hein, l'exigence de cette orientation profonde de toute notre vie vers ce secret du Père que nous devons porter, que nous devons recevoir, ce secret qui doit s'emparer de tout nous-mêmes et nous plonger dans le silence. Je vous l'ai déjà dit, les silences intérieurs proviennent des secrets que nous portons. Et ce secret est un secret personnel, substantiel. C'est le Père qui nous donne son Fils bien-aimé pour nous lier à ce Fils bien-aimé et pour que nous entrions dans cette contemplation. Le mystère de l'Avent nous fait vivre aussi le mystère de la visitation. C'est très important de comprendre cela. Nous avons déjà vu, C'est important de saisir ces liens profonds que Dieu établit entre la contemplation et la charité fraternelle. La charité fraternelle dispose à la contemplation, et la charité fraternelle est l'expression de la contemplation. Ou plus exactement, la charité fraternelle permet une certaine incarnation de la vie contemplative, permet de montrer que notre oui à Dieu a le réalisme de la charité fraternelle, où on se met au service de ses frères. Petit service, mais on se met au service. C'est vrai, Dieu a voulu ça, dans le grand mystère de l'Annonciation. C'est peut-être une des choses les plus bouleversantes. C'est de voir comment le mystère de l'Annonciation, le grand mystère de l'incarnation, est lié à ce signe. Élisabeth en est à son sixième mois, celle qu'on appelait la stérile. L'ange donne un signe. Marie n'a pas demandé de signe, parce que Marie aime dans la pureté de son cœur. Mais il lui est donné un signe par surabondance. Faites la comparaison avec Zacharie. C'est toujours très important de voir ça. Dieu nous demande de ne pas demander des signes pour nous. Ordinairement, c'est comme ça que Dieu fait. Il ne demande jamais. Pour les autres, c'est très différent. Nous pouvons de temps en temps, et dans votre vie apostolique, demain, vous verrez que de temps en temps, de demander à Dieu un petit signe pour les autres, pas pour soi. Quand vous demandez un signe pour vous, vous venez muet. Hein? Alors vous comprenez assez vite. C'est un signe pénal. Hein? Alors vous comprenez qu'il ne faut pas recommencer. Non? C'est vrai, je crois que c'est très vrai qu'on ne doit pas demander de signe pour soi. On doit suivre l'agneau. Clark, suis-moi. Elle n'a pas demandé de signe, elle a eu peur, mais elle n'a pas demandé de signe. Et on lui a dit, oui, réponds oui. Je crois que c'est très important de comprendre que pour nous, on ne demande pas de signe. On demande des signes pour les autres. Mais Dieu peut nous donner des signes par surabondance. Alors oui, ça oui, recevons ces signes qui sont beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Beaucoup plus nombreux qu'on ne le pense. Les petits signes qui jalonnent notre vie, ces signes divins que nous apprenons à lire, que les journalistes ne savent pas lire, hein, mais que nous apprenons à lire avec le don d'intelligence et le don de science. Nous voyons comment Dieu nous mène par le bout du nez, admirablement, hein, admirablement. C'est lui qui nous conduit. Pas un cheveu de notre tête ne tombe sans que le Père Céleste ne le permette. C'est extraordinaire ça quand même. Il nous mène dans l'obscurité, c'est très vrai. Il nous mène dans une obscurité qui peut être quelquefois assez terrible, parce que c'est quelquefois le tunnel complètement noir, parce qu'il y a un tournant entre deux, juste avant la fin. Alors c'est complètement noir. Et les gosses pleurent quand ils sont dans le tunnel. S'il y a une petite lumière, ça va. Mais s'il n'y a plus de lumière, les gosses pleurent. Et c'est normal que nous pleurons de temps en temps. C'est bien évident, parce qu'on ne voit plus rien du tout. Mais si nous acceptons d'être menés dans l'obscurité de la foi, dans la pauvreté de l'espérance, dans la brûlure de la charité, alors Dieu nous donne des signes par surabondance. Les signes, c'est pour notre prudence. C'est pas pour notre foi contemplative. Hein? Notre foi contemplative demande d'adhérer au mystère dans toute sa pureté, dans toute sa limpidité. Il faut que nous puissions adhérer pleinement et totalement à la volonté du Père et recevoir ce mystère d'amour et vivre ce mystère d'amour. C'est très important cela. Et les signes nous sont donnés par prudence, pour notre prudence, éclairée par notre foi, pour que nous puissions comprendre les gestes de charité que nous devons faire. C'est pour nous aider à comprendre les gestes de charité que nous devons faire. Parce que Dieu aime que nous ayons des initiatives dans la charité fraternelle. C'est très curieux. Et Dieu aime que nous ayons des initiatives, des petites initiatives très simples que nous pouvons faire au-delà de ce qui nous est donné d'une façon impérative, au-delà de l'obéissance, voyez, dans l'obéissance, mais au-delà de l'obéissance, c'est très subtil, mais c'est comme ça, c'est au-delà de l'obéissance, c'est dans la ligne de l'obéissance, et Dieu nous donne ces petits signes pour que nous puissions faire ces petits gestes d'amour, avec toute la spontanéité que nous pouvons mettre dans ces gestes. Ce signe a été donné à Marie pour que Marie fasse ce geste de miséricorde, ce geste de charité fraternelle. Vous voyez, l'Annonciation est entre deux mystères de charité fraternelle, avec Joseph, avec Élisabeth. C'est assez extraordinaire de voir la charité fraternelle dispose à la contemplation et la charité fraternelle vient de cette exigence de contemplation. Il faut entrer pleinement dans l'obscurité de la contemplation. Il faut entrer totalement dans ce fait de recevoir le don de Dieu. Et puis nous savons que Dieu nous donnera des petits signes pour exécuter certains gestes de charité fraternelle. Être présent à tel ou tel qui a besoin de nous. Et en faisant cela, nous permettons à notre vie contemplative d'aller plus loin. C'est vrai, la charité fraternelle garde le silence de la contemplation. Quand c'est une véritable charité fraternelle, quand nous répondons à certains appels profonds de l'Esprit Saint, ça maintient en nous un silence d'amour. Une présence d'amour qui est la présence du Verbe de Dieu en nous.